Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 173. Pour le dimanche 16 septembre 2012. Pourquoi je ne crois pas dans l'efficacité du shiatsu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du shiatsu, qui est une technique de massage qui nous vient du Japon. Évidemment, c'est à l'intersection de plusieurs de mes centres d'intérêt. Évidemment, le Japon, le scepticisme et aussi les arts martiaux. Donc cet épisode se situe un peu dans la lignée de quelques épisodes que j'ai réalisés sur le Bullshido, donc, qui est ce concept qui est formé de bullshit, la foutaise, et de do, comme dans Budo, l'art du guerrier. Bullshido, c'est la voie de la foutaise. Donc en fait, c'est un concept qui, dans le mouvement sceptique, enfin, c'est un aspect tout à fait spécifique du mouvement sceptique qui a trait aux pseudo-sciences ou aux superstitions dans les arts martiaux. Et on sait que les superstitions, donc j'avais consacré un épisode sur les superstitions, mais on sait que les superstitions sont très présentes dans les sports en général, parce que les athlètes sont sous pression pour réaliser des performances, et ils sont souvent dans des situations où ils ne peuvent pas contrôler les événements, et donc ça les encourage à avoir des comportements superstitieux, mettre les mêmes chaussettes pendant toute la saison, etc. Donc dans le domaine des arts martiaux, il y a pas mal de bullshido, entre autres à cause du fait qu'il y a tout un bagage qui vient à travers les arts martiaux traditionnels de techniques d'illusionnistes qui sont là pour prouver prétendument l'efficacité d'un art martial, comme par exemple le bras impliable dont j'ai déjà parlé. Cet été, j'étais à un stage d'aïkido, donc je vous ai déjà expliqué que je pratique l'aïkido. Et ces dernières années, on a constaté une popularité grandissante du shiatsu dans les milieux aïkidoïstes d'aïkido de Belgique, et je suppose de France aussi. Quand j'ai commencé les arts martiaux, donc vers les années, un peu avant les années 2000, je faisais du jujitsu, et c'est vrai que à l'époque, on m'avait déjà proposé de prendre des cours de shiatsu, et j'en avais fait un ou deux avant de décider que c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. À l'époque, j'étais pas du tout aussi sceptique que maintenant. Bon, j'ai vu en quoi consistait le shiatsu. Et donc là, maintenant, il y a dans les clubs que je fréquente toute une série de membres qui pratiquent ce shiatsu. Et bon, ça, vous allez voir, donc le shiatsu, c'est une méthode de massage qui se base, pour le simplifier, je dis toujours, c'est de l'acupuncture qui se fait à main nue au lieu d'avoir des aiguilles. Donc ça se base sur l'idée qu'il y a une force vitale, donc le ki, qui passerait à travers le corps, et qu'il y aurait sur le corps, donc dans ces méridiens, ces endroits où le ki, donc cette énergie mystique passe. Si on effectue des points de pression à ces endroits-là, ça permet d'avoir un effet thérapeutique X ou Y. Je ne sais pas exactement, en fait, c'est une question que je me suis posée, de savoir réellement de quand date la théorie du shiatsu utilisée à l'heure actuelle. Parce que très souvent, les gens, pour défendre ce genre de pratique, vont faire appel à l'argument fallacieux de l'Antiquité, dire « ça s'est pratiqué depuis très longtemps, donc ça doit être efficace. » Vous voyez, beaucoup de gens l'ont pratiqué depuis longtemps, donc il doit avoir une certaine efficacité. C'est l'argument fallacieux d'Antiquité, qui est une variante de l'argument fallacieux ad populum, de la popularité. Beaucoup de gens y croient, donc c'est vrai. Ben non, beaucoup de gens peuvent croire dans quelque chose de faux. Pendant très longtemps, énormément de gens ont cru que la Terre était plate. Ça ne fait pas que la Terre est réellement plate. Et c'est pas parce que quelque chose est vieux, que quelque chose, enfin date d'il y a très longtemps, que quelque chose est forcément vrai. Et là, on peut pointer vers toutes les religions et dans les pratiques de médecine prétendument alternative. On sait qu'il y a des tas de traitements qui datent d'il y a très longtemps, mais qui en réalité ne sont pas réellement efficaces au-delà d'un effet placebo. Bien entendu. Je parlais de l'antiquité de la chose. Ah, ça, c'est quelque chose qui serait curieux de savoir, parce qu'il y a énormément de choses qu'on pense très anciennes qui en réalité ne le sont pas. Par exemple, Brian Dunning du podcast du balado Skeptoïde en anglais avait fait un épisode sur la médecine chinoise, donc aussi une forme de médecine alternative. Mais en réalité, quand on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte que la médecine chinoise telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui n'est pas si vieille que ça. Elle date en fait du XXe siècle où elle a été codifiée durant la période maoïste. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer des médecins, enfin non, ils n'avaient pas les moyens, ils avaient des médecins de campagne, etc., mais ils n'avaient pas de fonds pour financer l'envoi de médicaments dans les régions rurales de la Chine, et donc ils se sont dit, ah, on va donner un manuel qui sera constitué de méthodes de grand-mère qu'on aura codifiées, comme ça, au moins les médecins qui sont dans la campagne et qui n'ont pas accès à des médicaments pourront faire quelque chose, même si en fait c'est juste pour maximiser l'effet placebo. Et donc en fait, c'est la médecine chinoise, les gens pensent que c'est très ancien, mais en fait c'est une codification tout à fait récente. Mais là, je ne sais pas pour le shiatsu dans quelle mesure ce qui est pratiqué à l'heure actuelle en Belgique sous le terme de shiatsu est réellement aussi ancien que ses pratiquants le croient, et je serais très très étonné que ce soit le cas, que ça soit extrêmement ancien. Bon, ceci étant dit, j'expliquais que le shiatsu est à la croisée entre l'acupuncture et le toucher thérapeutique. Donc l'acupuncture, c'est on applique des aiguilles à certains endroits pour essayer de travailler sur le ki ou le chi, évidemment, donc cette énergie mystique. Et le toucher thérapeutique, c'est la pratique d'imposition des mains, par exemple, qui est très populaire chez les infirmières. Aux États-Unis, je n'ai pas de chiffres en Europe, mais je sais qu'aux États-Unis, les podcasts sceptiques consacrés à la médecine que j'écoute disent que c'est très populaire chez les infirmières. Mais dans le toucher thérapeutique, il n'y a pas de contact, on passe les mains au-dessus du corps, donc ça ressemble aussi un peu à ce qu'on trouve chez nous, sous le terme de Reiki, qui est le Reiki, c'est de l'imposition des mains, mais sans contact, hein, donc... On fait juste des passes magiques, enfin évidemment ils s'appellent pas ça comme ça, mais en réalité c'est ça, on fait des passes magiques autour des gens et c'est supposé améliorer leur santé. Alors bon, pourquoi est-ce que je suis sceptique du shiatsu? Alors, une des raisons en fait pourquoi ça m'a interpellé, c'est que je vais dans ces clubs d'aïkido et je dois dire, c'est toujours c'est intéressant de se confronter, parce que moi je suis entouré, enfin comme je suis un sceptique, je fréquente beaucoup de sceptiques, etc. C'est marrant, enfin c'est intéressant de voir des gens qui justement, bon, que je trouve qui sont des copains, des amis à moi, qui sont des gens que je considérerais intelligents entre guillemets, hein, je veux dire, un de ces pratiquants de shiatsu a fait un diplôme d'ingénieur par exemple, et on se dit mais comment est-ce que vous pouvez croire là-dedans de manière aussi crédule, ça a un côté surréaliste. Ça nous ramène justement à la question classique de Michael Shermer, hein, pourquoi les gens croient des choses bizarres. Et c'est toujours interpellant, et alors ça pose toute la question, comment leur en parler, comment essayer de planter des graines de scepticisme, surtout que justement ils me demandent toujours si j'ai pas envie d'avoir un massage, etc. Ils le proposent toujours, donc c'est par exemple je faisais un stage intensif une semaine, enfin donc c'était 6 heures par jour, si mes souvenirs sont bons. Et donc, pendant la pause, ils proposaient des massages aux membres. Évidemment, ils se demandaient pourquoi j'étais pas intéressé. Alors, ça génère toujours des discussions, mais c'est toujours la complexité. Hein. Le scepticisme sur Internet, c'est une chose, mais comment gérer les relations interpersonnelles sans choquer les gens Parce que faire du rentre-dedans, ça ne sert pas à grand-chose, de toute manière. Donc, essayer d'aborder la chose de manière subtile. Mais donc ici, je peux être plus clair, puisqu'on est sur un balado sceptique et que les gens qui l'écoutent sont supposés en tout cas être sceptiques et donc ouverts à ce genre de discussion. Donc pour commencer par le béaba, c'est qu'évidemment l'existence du chi ou du ki n'est absolument pas prouvée. Non seulement ça, mais en réalité, les progrès de la science moderne ont réfuté l'hypothèse de l'existence d'une force vitale. Donc non seulement l'existence du ki n'est pas prouvée, mais il n'y a aucune bonne raison de penser qu'il existe. Donc, je dis désolé, mais on ne vit pas dans un univers à la Star Wars et les pratiquants de shiatsu ne sont pas des maîtres Jedi. Ah oui, aussi à propos de la relation entre shiatsu et aïkido que je voulais évoquer, il y a cette question de points de pression que j'ai mentionné. C'est vrai que le shiatsu, c'est des massages avec des points de pression. Et effectivement, dans les arts martiaux, comme dans l'aïkido, il y a des points de pression qui sont des points sur lesquels, si on appuie dessus, cela génère de la douleur relativement importante. Bah, évidemment, c'est le genre de choses qu'on apprend à un niveau plus avancé, hein, parce que c'est difficile à placer correctement. ces points de pression-là, enfin, il y a souvent un point de pression et un point de pression comme si c'était la même chose, mais les points de pression qui génèrent de la douleur, je veux dire, c'est quelque chose d'objectif, hein. Si j'appuie dessus et que j'arrive pas à faire mal à la personne, quand moi j'appuie sur les points de pression d'aïkido, je vois bien que ça fait mal et que plus j'appuie, plus ça fait mal. Je veux dire, c'est extrêmement désagréable. Et quand on me le fait, c'est aussi extrêmement désagréable parce que il y a des zones du corps, si on appuie dessus, ça fait mal. Enfin, je veux dire, ça n'a rien de magique ou. Enfin, je veux dire, dans ce genre de technique, on sait qu'il y a par exemple des endroits où il y a des artères, bah, on essaie, si on appuie suffisamment fort, on peut boucher une artère, ce genre de choses. Enfin, ça c'est. Enfin, les points de pression habituels, c'est même pas ça. C'est juste des endroits où c'est particulièrement douloureux d'appuyer de manière soutenue, où c'est plus douloureux d'appuyer à cet endroit-là que dans d'autres parties du corps. Évidemment, c'est très différent d'avoir de cette idée qu'il y a des points de pression ou qui seraient des lieux de passage du ki ou du chi, qui, si on appuyait dessus, générerait une guérison, enfin, aurait un effet thérapeutique. Je veux dire, les points de pression dans le shiatsu n'ont pas un effet douloureux. Je veux dire, on sent une pression, mais ils n'ont pas. Alors évidemment, oui, si j'appuie sur. Enfin, si on appuie sur une partie de votre corps, vous sentez une pression, mais il n'y a pas cet aspect objectif. Enfin, donc les deux choses sont très différentes. On utilise le même vocabulaire, point de pression dans les arts martiaux et point de pression dans le shiatsu, mais ce n'est pas la même chose. Mais ça crée une sorte de transition. Donc les gens qui pratiquent l'aïkido sont plus enclins, ce genre d'arts martiaux traditionnels, sont plus enclins à accepter la réalité du ki, ou pas tous heureusement, hein, mais du ki évidemment. Ou enfin, justement, du fait qu'il y aurait ce genre de point de pression, enfin de l'efficacité du shiatsu. Le ki, par exemple, c'est que souvent le professeur va suggérer aux pratiquants de dire, bon, ben, vous projetez votre ki à travers votre corps. Encore une fois, sous forme de métaphore, ça pose pas de problème, mais comme il y a un effet de la suggestion, moi j'ai déjà entendu régulièrement des pratiquants me dire, ah, mais oui. Mais j'ai senti le ki qui passait dans mon corps, une sensation. Mais oui, mais ça, c'est un effet de la suggestion classique. Le professeur vient de vous dire que vous deviez ressentir quelque chose. Et, incroyable, mais vrai, vous ressentez quelque chose. Oui, ben ça, c'est l'hypnose dans la classique, hein, c'est purement de la suggestion. Il y a des gens qui sont plus suggestionnables. On leur dit d'avoir une sensation, ils la ressentent parce qu'on leur a dit de la ressentir. Mais pour eux, ça établit la réalité du ki. Ah, mais c'est vrai parce que je l'ai ressenti, oui. Et puis alors, évidemment, ça les rend plus ils ont plus facile à accepter l'idée que le chiatsu se base à un fondement empirique. Oui, alors toujours dans ce même ordre d'idée, tant que je suis sur l'aïkido, donc par exemple, il y a des mouvements respiratoires en aïkido qui sont des mouvements très 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 doux qu'on fait en début d'échauffement. Bon, moi je suis pas pour ces mouvements respiratoires de manière générale. Alors on peut dire, je dirais que l'efficacité de ces mouvements respiratoires, où on travaille sur la respiration et on fait un mouvement très léger, c'est principalement pour concentrer les élèves, pour faire une brisure entre la pratique entre la vie de tous les jours et la pratique sur le tatami. Parce qu'évidemment, la concentration, c'est important quand on est sur le tatami pour qu'il n'y ait pas des blessés comme ça. Malgré tout, personnellement, je pense que si j'étais prof d'aïkido, j'enseignerais pas les mouvements respiratoires. Je pense que c'est largement une perte de temps. Et mon professeur au Japon, donc je pratiquais dans un club d'aïkido au Japon, il ne faisait pas ce genre de mouvements respiratoires. Son échauffement démarrait directement par des séries de chutes, sans transition. Donc, parfois, c'est l'astuce, hein. Les Européens veulent être plus japonais que les Japonais eux-mêmes. Mais donc, dans ces mouvements respiratoires, en étant un peu les bras, enfin, un échauffement extrêmement doux, hein, il y a aussi des prétentions thérapeutiques, tel mouvement, si on secoue les mains de telle manière, ça a un effet sur la prostate ou sur le rein, etc. Enfin, bon. Et ça dénote une certaine, justement, crédulité de certains des aïkidokas sur ce genre de choses. Qu'on retrouve dans le shiatsu, alors, de manière très amusante. Je demandais, enfin, donc un David Buccella que j'avais invité sur le balado me disait, Elle me disait, ah oui, mais tu sais, notre prof à Wav, je lui ai posé la question, il nous a juste dit, oh, ces exercices respiratoires, ça a été enfin, ceux qu'on nous avait montrés récemment, ça a été introduit par un maître d'aïkido qui avait 80 ans, il avait des rhumatismes et il pouvait pas démarrer l'entraînement en faisant des séries de chutes parce qu'il était trop âgé, et donc il faisait ces mouvements-là pour lui, quoi, parce que quand on a 80 ans, vaut mieux commencer par un échauffement doux, mais que c'est complètement inutile pour des jeunes. Bah oui, voilà, ce genre de discours, ça va, quoi, mais commencer à dire, si vous secouez les mains d'une certaine manière, ça va améliorer la circulation dans vos intestins, enfin votre digestion, enfin c'est complètement saugrenu finalement. Donc voyez le lien entre Aikido et Shiatsu. Et alors, pour revenir sur le Shiatsu, on n'a pas de preuve que le Ki existe, on a des bonnes raisons de penser que le Ki n'existe pas. Mais je connais pas de recherche vraiment sur l'efficacité du shiatsu en percé, exactement, enfin vraiment sur le shiatsu, mais il y a eu pas mal de recherches qui ont été réalisées sur le toucher thérapeutique, l'acupuncture, etc. Et on sait que ces techniques ne fonctionnent pas réellement. Pour l'acupuncture, qui est le plus proche à mon avis, il s'agit purement d'un effet placebo. Et si dans l'acupuncture on introduit des aiguilles, il y a un effet placebo, enfin c'est de l'effet placebo, dans le shiatsu, on le rend aussi, hein. Il n'y a pas de raison de penser que. Je veux dire, par exemple, dans l'acupuncture, dans les recherches qui ont été faites, on sait qu'on peut mettre les aiguilles de manière aléatoire sur le corps, ça a le même effet, parce qu'en fait, les points théoriques que les acupuncturistes apprennent n'ont aucune existence objective, donc en fait, peu importe où on met les aiguilles, et aussi. On peut ne même pas ne pas rentrer des aiguilles, on peut avoir des fausses aiguilles qui se rétractent à l'intérieur d'une tubule quand on les applique. Les gens vont rapporter les mêmes effets parce que peu importe qu'on rentre réellement l'aiguille ou pas. Enfin, il y a eu des tas de recherches de ce type-là. On sait que l'acupuncture, elle, est un effet placebo sans autre bénéfice. Ouais, il y a toujours un peu de débat autour de est-ce que l'acupuncture serait efficace pour la douleur. Bon, évidemment, parce que là, il y aurait une certaine plausibilité antérieure, c'est-à-dire que vous savez que quand vous avez mal, quand on est enfant, on se fait bobo, et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on frotte sur la blessure. Bah, évidemment, si vous avez une douleur et qu'on vous enfonce une aiguille, c'est un peu comme frotter, donc on crée une autre douleur qui pourrait distraire de la douleur originelle, et donc il y aurait une sorte d'amélioration de la gestion de la douleur. Mais même ça, c'est pas très validé dans la littérature scientifique. Dans le shiatsu, évidemment. Il y a cet effet, un effet placebo qui est lié à la relaxation générée par le massage et à la situation. Ben oui, on est dans un monde où on est stressé. On vous propose une séance de shiatsu, vous allez vous allonger pendant une demi-heure et quelqu'un va vous prendre en charge, il va vous écouter, il va vous masser, etc. Et donc il y a un effet placebo. Alors évidemment, il y a un effet de relaxation lié au massage. Ça, les massages, je ne dis pas, c'est très bien, c'est comme la relaxation, etc. C'est bien. Le problème ne se situe jamais sur le massage en lui-même. Je veux dire, le fait qu'un massage relâche de la tension et que la relaxation de la tension, se déstresser est une bonne chose, on est tous d'accord. Le problème n'est pas là, le problème est sur les prétentions thérapeutiques du shiatsu. Donc, soit qu'il y aurait un effet thérapeutique ou un effet de prévention, vous savez, ça va. C'est toutes les affirmations floues qu'on trouve sur les médecines, les médicaments alternatifs qu'on trouve dans toutes nos mauvaises pharmacies, c'est-à-dire absolument toutes en fait, du style ça va booster votre système immunitaire ou ça va vous aider à résister au rhume, enfin tous ces trucs qui ne veulent strictement rien dire et qu'on met sur les étiquettes comme ça il n'y a pas de prétention trop claire et on ne peut pas les poursuivre en justice, quoi. Parce qu'évidemment, si vous mettez mon médicament guérit le rhume, là vous devez prouver ce que vous dites. Mais si vous dites que ça booste le système immunitaire, ce qui veut rien dire, à ce moment-là on ne peut pas vous poursuivre en justice. Donc ici c'est la même chose, le shiatsu a ce genre de prétention, évidemment. Ah, ça va améliorer votre système immunitaire. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par ça? En quoi ça consiste? Voilà. Alors on va me dire, comme d'habitude, on va me dire, mais oui, mais quel est le danger de ce genre de croyances, hein, en anglais what's the harm? Ben, il y a des dangers qui sont que, évidemment, si on a des croyances irrationnelles, non prouvées scientifiquement, ben, il y a tout d'abord un danger direct. Par exemple, un des pratiquants de Shiatsu m'a dit, ah, mais oui, mais si tu as une attaque cardiaque, Tu peux appuyer sur tel point qui, si mes souvenirs sont exacts de cette anecdote, se trouve au bout de l'index, je pense. Si vous appuyez là, ça relancera le cœur en cas d'attaque cardiaque. Donc vous imaginez, si vous acceptez ce genre d'affirmation de manière non critique, vous faites une attaque cardiaque et au lieu d'aller téléphoner à une ambulance, je sais pas, ou avoir un comportement qui pourra potentiellement vous sauver la vie, prendre vos médicaments, etc., vous commencez à appuyer sauvagement sur le bout de votre index, bah, c'est un comportement qui peut vous faire perdre la vie. Et puis évidemment, comme toutes les médecines prétendument alternatives, je veux dire, quand on a des croyances irrationnelles, elles ouvrent la porte à toutes sortes d'autres croyances irrationnelles. Et finalement, le danger est toujours aussi un processus d'enfoncement. C'est vrai qu'au début, les gens vont toujours dire: Ah, mais oui, mais je fais ça en plus du traitement prouvé par la science, on va dire allopathique, mais allopathique veut juste dire prouvé scientifiquement, évidemment. Et oh, je fais juste ça en plus du traitement. Ouais, bah, si ça fonctionnait réellement, on n'aurait pas besoin de le faire en plus du traitement qui fonctionne, hein. Quand vous faites un traitement en plus d'un traitement allopathique, ça veut dire que le traitement que vous faites ne sert à rien. Pourquoi alors prendre le traitement allopathique? C'est toujours les affirmations qui m'énervent quand on me les dit ou quand je les lis. Parce que j'ai toujours envie de dire, tu t'écoutes quand tu réfléchis, parce que tu es en train de dire des bêtises là. Et alors, évidemment, une fois qu'ils ont dit, après ça, ils vont dire, Ah, mais oui, mais je pourrais me passer du traitement scientifiquement prouvé. Mais alors, évidemment, bon, ça présente des risques. Évidemment, la grippe guérit en une semaine, donc c'est pas bien grave si on ne se soigne pas. Enfin, et encore, si on n'est pas une personne âgée. Je veux dire, par exemple, pour l'asthme, au Congrès sceptique mondial, un des auteurs avait fait une comparaison entre l'acupuncture pour l'asthme, le traitement classique, donc Ventolin, enfin Duovent, ce genre de choses, ceux que je prends moi pour l'asthme, parce que je suis asthmatique, les médicaments dont l'efficacité est prouvée, et puis il y avait un autre, je crois que c'était un vrai placebo, quoi, enfin une gélule de sucre. On compare les trois groupes, et alors, bah, ce qu'on voit, c'est que le bien-être subjectif est le même dans les trois groupes. Ok, ça c'est l'effet placebo. Donc il rapporte que ça va aussi bien dans les trois groupes. Oui, mais quand on prend une mesure objective de la capacité respiratoire, donc à quel point la capacité des poumons, parce qu'évidemment quand on a de l'asthme, la capacité respiratoire a tendance à se détériorer au fur et à mesure de l'asthme, des années, eh bien, avec les médicaments scientifiquement prouvés, entre guillemets, allopathiques, à ce moment-là, la capacité respiratoire a été conservée. Mais par contre, pour les traitements acupuncture et vraiment placebo, gélule de sucre, là, la capacité respiratoire a significativement diminué. Donc en fait, l'état s'est aggravé. Ils sont devenus ils sont plus asthmatiques qu'ils n'étaient avant. Mais le bien-être subjectif est le même. Donc voilà, ça, c'est un des risques des traitements alternatifs. Et évidemment, enfin, prétendument alternatifs. Et évidemment, bon, pour des choses comme le cancer, on sait que on vous annonce que vous avez un cancer, mais que vous allez faire à la place de l'urinothérapie, par exemple, c'est-à-dire qu'on vous demande de boire votre propre urine, ce qui est une médecine alternative qui existe réellement, je le précise, pour vous soigner, et que à cause de ça, vous perdez du temps pour commencer la chimiothérapie, ben encore une fois, c'est le genre de décision qui peut vous coûter la vie. Donc effectivement, les croyances irrationnelles dans les médecines prétendument alternatives comme le shiatsu ont des conséquences. C'est pas quelque chose qui est neutre, sans importance, ou c'est pas grave, hein, c'est juste l'effet placebo, blablabla. Non, ça c'est pas vrai, ceux qui tiennent ce discours se trompent. Et donc, ce que j'invite les praticiens de shiatsu à faire, c'est de tenter une petite expérience. Durant le massage, ils devraient réaliser des points de pression aléatoires sur le corps du patient, qui n'ont rien à voir donc avec la théorie énergétique qu'on leur a appris, et voyez quels effets ils rapportent. Bon, c'est pas une expérience parfaite parce que évidemment c'est pas en double aveugle, blablabla. Enfin, ça serait déjà une façon de se forger une opinion. Quelle est l'efficacité des points de pression qu'on leur a enseignés? Parce qu'évidemment, par exemple pour l'acupuncture, on sait il y a pratiquement des points d'acupuncture un peu partout sur le corps parce qu'il y a tellement d'écoles qui enseignent des points différents que c'est pas standardisé, donc en réalité, pratiquement tous les points du corps fonctionnent, ce qui est vrai, puisqu'en fait, aucun point des corps fonctionne. Alors, quelques arguments fallacieux utilisés pour défendre le shiatsu que j'ai déjà abordé. Donc, l'appel à la tradition. Les gens l'utilisent depuis très longtemps, donc cela doit fonctionner. Ben, comme je l'ai expliqué, non. Quelque chose peut être vieux et ne pas fonctionner, c'est pas, ou ne pas être vrai. Pour résumer la chose, je dirais: quelque chose n'est pas vrai parce qu'un vieux japonais l'a dit. Et quelque chose n'est pas vrai non plus parce qu'un vieux japonais vous a répété ce qu'un vieux chinois lui avait dit auparavant. Enfin, je veux dire, c'est ça là, l'argument d'antiquité. Ah, mais ça vient d'Orient, donc ça fonctionne, donc c'est vrai. Ben non, je veux dire, ils croyaient des... Les Japonais, il faudra que je fasse un... Enfin, un jour, je vais faire un épisode sur... Faudrait que je fasse un épisode, en tout cas, sur le... Sur, déjà, l'animisme japonais, sur le... La religion shintoïste, parce que c'est pas très connu par chez nous, et puis c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais une fois qu'on aurait fait ça, il faudrait que je fasse un épisode sur les yokai, donc les monstres japonais, et enfin tout le folklore japonais qui est extrêmement... Il est fascinant, hein, c'est un folklore, vraiment, moi j'adore. Par exemple, dans les yokai, des animaux... Bon, on traduit yokai généralement par monstre, enfin, il n'y a pas de traduction, mais... Dans les yokai, par exemple, il y a le kappa, qui est un des yokai les plus célèbres, c'est un être humanoïde... Avec mi-homme, mi-grenouille, comme ça, il a une tête de grenouille. Et on en fait beaucoup de mascottes aujourd'hui, mais originellement, les kappas vivaient dans les cours d'eau. Évidemment, c'est des sortes d'hommes-grenouilles. Hein. Ça ressemble, pour ceux qui aiment bien Lovecraft comme moi, ça ressemble au profond de Lovecraft, aux Deep Ones de Lovecraft qui vivent à Innsmouth, hein, des êtres amphibiens à la tête de grenouille. Donc, ils étaient supposés vivre au bord des rivières au Japon. Et donc maintenant, on en fait des mascottes. Le kappa est supposé être super mignon. Mais durant l'époque Edo, donc avant la fin du 19e siècle, la tradition, enfin le folklore, disait que les kappas vivaient près des rivières, et lorsque quelqu'un voulait aller uriner ou déféquer dans la rivière, il se faisait attaquer par le kappa. Je pense qu'il prenait mal la chose, et il se faisait dévorer par le kappa. Vous penserez à cette anecdote si un jour vous voyez une poupée ou un dessin animé avec un japonais avec un kappa tout mignon dedans. Mais donc, le kappa, par exemple, je peux vous assurer qu'il y a des sondages qui montrent qu'il y a pas mal de Japonais qui y croient encore aujourd'hui. Bon, évidemment, la question, c'est qu'est-ce que c'est des légendes urbaines, c'est des rumeurs. Est-ce qu'on, bon, les yokai, ils ne vivent pas vraiment dans le monde physique. C'est pas non plus supposé comme le Bigfoot ou le Loch Ness, le monstre du Loch Ness, des créatures. Ils vivent dans une sorte d'entre-deux-mondes comme ça. Ils peuvent parfois se manifester dans notre monde. Donc, c'est des créatures mi-physiques, mi-surnaturelles. C'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile à traduire par monstre. C'est proche de l'animisme, justement, des esprits de la nature. Mais donc, les Japonais ont des tas de croyances dans ce style-là. Donc, c'est pas parce que les Japonais y croient qu'il faut y croire aussi, quoi. Je veux dire, je commencerai à raconter ce genre d'histoire. Les Occidentaux ne se mettent pas à y croire. Mais bizarrement, les Japonais viennent avec le shiatsu, et là, ça devient extrêmement crédible tout d'un coup. Alors, un des autres arguments qu'on m'a dit lorsque j'émettais des doutes très légers à mon interlocuteur à propos de l'efficacité du shiatsu, c'était: ah oui, mais je demande à mes patients, aux personnes que je vois, si elles ont retiré un effet bénéfique de mon massage. Mais évidemment, c'est la pire manière d'évaluer l'efficacité d'une médecine prétendument alternative ou de la médecine. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pour ça que la médecine scientifique, ce qui est voilà, toute la médecine est scientifique, hein, sauf quand on se met à enseigner les médecines pseudo-scientifiques, mais utilise les tests en double aveugle, enfin tout ça parce qu'il faut contrôler tout ce qui se passe. Mais ici, évidemment, le problème, c'est que, ben voilà, je veux dire, on n'est pas en double aveugle, il n'y a pas de groupe contrôle ni rien, c'est pas une expérience. Et on sait qu'à cause de l'effet placebo, les gens vont rapporter que le traitement a été efficace. Je dis toujours dans ce genre de conversation, je parle toujours de la saignée. Hein, entre le 16e et le 18e siècle, la saignée était extrêmement populaire. Et on a des tas de témoignages de l'époque où les patients étaient extrêmement satisfaits du fait donc on leur a fait une saignée, donc un coupé au poignet pour faire couler le sang, etc. Alors qu'on sait très bien qu'objectivement aujourd'hui que c'était la pire des choses qu'on puisse faire. Mais peu importe enfin, vous imaginez l'urinothérapie, on demande aux gens de boire de l'urine, leur propre urine, et ça, ils rapportent que ça fonctionne. Tous ces traitements complètement absurdes, à cause de l'effet placebo, les gens rapportent un effet bénéfique. Et évidemment, bon, ici, c'est des praticiens amateurs de shiatsu, donc, ben, je suis pas sûr, je crois qu'il y en a qui font payer leur chose. D'ailleurs, je me demande toujours, je suis pas très au clair de la loi en Belgique, mais, Si y a un médecin qui m'écoute là, en Belgique, si quelqu'un, donc je m'étais de me poser cette question, si quelqu'un pratique le shiatsu chez lui, fait venir des gens et leur donne des conseils médicaux du style si vous appuyez sur le bout de votre index, ça relancera votre cœur en cas d'attaque cardiaque, est-ce que c'est pas une pratique illégale de la médecine? Est-ce que c'est pas. Est-ce que ça, on peut pas les poursuivre en justice pour ce genre de choses, pour donner ce genre de conseil médical sans avoir l'entraînement, enfin un diplôme de médecin. Enfin, voilà. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts américains, alors je connais la loi américaine. Enfin, je connais mieux les. Ils parlent plus des lois américaines. Si ces praticiens de shiatsu font payer leurs patients, ben, il y a alors la dissonance cognitive qui va entrer en ligne de compte, parce que si vous faites payer quelque chose à quelqu'un, et puis après, s'il a l'idée saugrenue, un truc, que ça n'a pas réellement été utile, ben, il va se dire merde, j'ai payé, et donc il va réduire la dissonance, et il va se dire ben, c'est quand même une bonne idée finalement. C'est difficile de remettre en cause le fait qu'on, enfin, de se dire qu'on a payé pour quelque chose qui était complètement stupide. C'est mauvais pour son image de soi, et donc ça va être réduit par la, on va réduire la dissonance cognitive en trouvant, ou en trouvant une efficacité pour la chose. Enfin, y a un exemple très extrême que j'avais entendu, c'était de ce type de dissonance cognitive. C'était une dame qui avait un cancer et qui avait payé très très cher pour aller voir des médecins aux mains nues. Donc, vous savez, ils font des tours de passe-passe d'illusionnistes, ils font semblant qu'ils rentrent leurs mains et qu'ils retirent la tumeur à main nue. C'est populaire aux Philippines et a toujours, enfin, ça avait été démystifié par Randi, et puis James Randi, et puis par d'autres illusionnistes par la suite. Encore régulièrement, l'OZ, l'Observatoire Zététique, fait des démonstrations pour expliquer comment c'est réalisé en public. Donc, cette dame avait été en Amérique du Sud pour se faire opérer par le médecin aux mains nues. Et puis bon, elle était en train, quelques mois plus tard, elle était en train de mourir de son cancer, puisqu'elle n'avait pas fait le traitement, suivi la chimiothérapie. Et quand on lui a demandé, mais vous vous rendez, enfin, un sceptique lui a posé la question, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez dépensé une somme faramineuse pour un traitement complètement inutile? Elle lui a dit, ah mais non, ce guérisseur-là, en fait, il m'a guéri, mais c'était une guérison spirituelle. Donc en fait, il a guéri mon âme, et maintenant, je suis prête à mourir. C'est prodigieux comme rationalisation, quoi. Comme réduction de la dissonance cognitive. En fait, elle est en train de mourir du cancer que le gars lui avait promis de guérir, mais en fait, c'était finalement qu'une guérison spirituelle, n'est-ce pas? Voilà, donc un peu ce que j'avais à dire sur le sujet du shiatsu. Voilà pourquoi je ne crois pas dans l'efficacité du shiatsu. Je pense que les massages, c'est très bien. Au Japon, il y a des tas de. C'est beaucoup plus populaire qu'ici, il y a beaucoup d'endroits où on peut avoir un massage. Bah, oui, bien sûr, vous êtes un salaryman, un employé stressé, bah, avoir un bon massage, c'est chouette, quoi. Mais après ça, il ne faut pas prétendre qu'ils ont des effets thérapeutiques qu'ils n'ont pas réellement. Ou il ne faut en tout cas pas prétendre qu'ils ont des effets thérapeutiques qui ne sont pas prouvés scientifiquement. Une dernière chose avant de nous séparer. Je voulais juste souligner que, enfin vous dire que sur le blog Scepticisme Scientifique, le blog de la science et de la raison, donc sur mon blog principal, pas sur le blog du balado où je mets juste le feed du balado, mais sur le blog où je poste des billets, où j'écris, tu sais, j'ai installé un bouton pour faire des donations, un bouton PayPal, hein, c'est des donations via PayPal. Et si jamais vous voulez soutenir ce podcast, ou le blog, ou enfin le travail que je réalise de manière générale, n'hésitez pas à faire une donation, ce que vous pouvez. Entre autres, ça m'aidera pour les frais du podcast, puisque évidemment le podcast entraîne des frais, et éventuellement m'aidera si, pour aller enregistrer, enfin aller à des événements sceptiques pour réaliser des interviews ou enregistrer des conférences, etc. Bref, si jamais vous voulez contribuer. Et si vous ne voulez pas donner de l'argent comme ça, enfin une donation, je vous rappelle que vous pouvez aussi acheter l'ouvrage réalisé, l'ouvrage collectif auquel j'ai contribué récemment, qui s'appelle Lueur sceptique, qui a été compilé par Patrice Serret, qui coûte pour l'instant sur Amazon 17 euros, et où j'ai écrit un chapitre consacré à la guerre des mondes d'Orson Welles. Ou encore mon autre ouvrage qui s'appelle La croyance au paranormal et qui est pour l'instant disponible sur Amazon pour la somme de 36 euros, où je parle de, comme le titre l'indique, la psychologie de la croyance au paranormal. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Like water. Water can flow or it can crash.
Be water, my friend. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Whether it flows or it can crash. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. Running water never goes stale. So you gotta just keep on flowing. Keep on. So you gotta just keep on. So you gotta just keep on flowing. You have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving. I mean, you gotta put your whole hip into it. Snap, snap, become one with the. You better train every part of your body. I mean, you gotta put your whole hip into it. Snap, snap, you better train, become one with the. Never go stale. So you gotta just keep on flowing, keep on flowing. So you gotta just keep on, just keep on. Under the sky, under the heaven, there is but one family. Do not believe in styles. Styles separate man. It's a process of continuing growth. Process of continuing. Empty your mind. Be